La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Et personne siffle.
Non.
Personne sait ?
Personne sait.
D'accord, bon bah c'est pas grave. On est de retour dans la dernière partie de la midinale. Je sais pas comment s'appelle cette partie. Kevin, t'es venu nous parler de réforme de l'assurance chômage.
Oui, je suis venu parler de la réforme de l'assurance chômage parce que c'est encore d'actualité. Vendredi dernier, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait des organisations syndicales qui avaient déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Et le recours a été rejeté, donc comme c'était prévisible, le 22 octobre. Moi, je voulais revenir sur une tribune, parce que pendant que je cherchais des infos sur justement ce recours, donc c'était il y a 10 jours à peu près, je suis tombé sur une tribune du Monde. Donc je cite le Monde, c'est une centaine d'économistes, parmi lesquels Olivier Blanchard, Pierre Cahuc ou Jean Tirole. Donc elle est parue sur le site du Monde uniquement le 9 octobre dernier et judicieusement titrée « Le nouveau mode de calcul des allocations chômage met en place un système juste, efficace et cohérent ». Un titre qui reprend une des conclusions de cette tribune. Donc on sait avant de commencer à lire la tribune qu'on va pas être forcément d'accord. On sait aussi que bien qu'en présence d'une centaine d'économistes, dont des professeurs et directeurs d'études, on va rencontrer quelques problèmes d'ordre mathématique, puisqu'en comptant les signataires en fin de tribune, on arrive en réalité au nombre de 29. Donc l'article commence assez fort, donc je cite « Prenons l'exemple d'une personne qui avait travaillé une semaine par mois pendant 2 ans en multipliant les contrats de travail à durée déterminée entre parenthèses CDD de 35 heures par semaine, alors que cette personne n'avait travaillé que 7 jours par mois, son allocation mensuelle était égale à l'indemnité journalière multipliée par le nombre de jours du mois. Cette allocation mensuelle était ainsi près de 3 fois plus élevée que son revenu mensuel passé. » Ce que la tribune ne dit pas, c'est qu'auparavant, cette personne aurait dû travailler 610 heures avant de prétendre à une allocation, soit dans son cas 18 mois. Un an et demi donc à ne toucher qu'un quart de salaire. C'est vrai que la situation était on ne peut plus confortable. Avec la réforme et l'augmentation de 4 à 6 mois de durée de cotisation, cette même personne ne touchera rien puisqu'elle n'atteindra les 915 heures qu'au 26e mois, soit plus que les 2 ans de période de référence qui a, elle, diminué de 28 à 24 mois avec la réforme. Donc un système juste, efficace et cohérent. Plus loin, dans la tribune, un argument inique. Accepteriez-vous de toucher la même retraite au bout de 40 ans de travail que quelqu'un ayant occupé le même emploi une année sur 4 seulement ? Là encore, la période de cotisation n'est pas prise en compte. Il faudrait que ce quelqu'un travaille une année sur 4 pendant 160 ans, ce qui a peu de chances d'arriver. On pourrait aussi faire remarquer aux auteurs de cette tribune que parler de 40 ans de travail pour toucher la retraite n'a plus vraiment de sens, le nombre de trimestres exigés étant passé à 172 pour les personnes nées après 1973. Donc, on relève aussi la... Moi, j'ai appelé ça une dégueulasserie parce que je ne sais pas comment la nommer autrement. Une dégueulasserie toujours payante d'opposer les travailleurs et travailleuses entre eux, les chômeurs et chômeuses contre les retraités. Plus loin dans la tribune, je recite un de Olivier Blanchard, Pierre Cahuc et Jean Tirole. On trouve cette phrase: dans ce dispositif, une personne qui travaillait les 15 premiers jours du mois et s'inscrivait à Pôle emploi pour les 15 derniers jours obtenait un revenu presque aussi élevé que si elle avait travaillé tous les jours du mois. Alors moi, j'ai fait des calculs, ça va être la partie de la chronique qui est un peu chiante. Donc pour une personne au SMIC, 1258 € net. Le SJR, donc salaire journalier de référence, est à 52,25 €, soit une allocation retenue de 32,95 € brut et 31,38 € net. Donc, l'activité. Alors là, je ne sais pas ce que j'ai fait, je me suis trompé dans mes chiffres.
Bah, comme eux, hein.
Ouais.
129, oui. C'est bien.
On t'en voudra pas.
Donc oui, non, en fait là je calcule en fait l'indemnité à laquelle la personne a droit, toujours cette personne payée au SMIC, c'est 1099,70 €. Donc la Tribune parlait de droit presque aussi élevé que si elle avait travaillé tous les jours du mois. En réalité, on arrive à un différentiel de 160 €. Donc dans la tête de ces professeurs, ça doit être une paille. On oublie encore de dire qu'en procédant de la sorte, cette personne, à moins d'avoir des droits, aurait dû cotiser pendant une période deux fois plus longue, à demi-salaire. On se garde bien de donner la situation de cette même personne après cette réforme tellement juste, efficace et cohérente. Elle devra travailler 12 mois contre 8 auparavant pour faire valoir ses premiers droits. Si elle arrête de travailler... le calcul du SJR en gros lui amène 238 € de moins qu'avant la réforme, donc là aussi c'est une paille. Pour les personnes dont le calcul du SJR arrive à 73 € au moins, la baisse pourra atteindre 43%. Donc ça c'est le plafond généreusement octroyé par le gouvernement pour le calcul du SJR. Si elle continue à travailler, le montant de son activité et de ses allocations s'élèveront à 980 € contre 1100 auparavant. Donc c'est 120 € de différence. Donc la phrase dont est tiré le titre, le nouveau mode de calcul des allocations chômage met en place un système juste, efficace et cohérent avec l'objectif de l'assurance chômage. Limiter les chutes de revenus mensuels consécutives aux pertes d'emploi, tout en incitant au retour à l'emploi durable. En réalité, c'est une réforme dont l'objectif est énoncé à la 7e page du rapport d'impact publié par l'UNEDIC et qui permettrait d'économiser 2,3 milliards d'euros par an ouvrez les guillemets, régime de croisière. Régime de croisière, donc quand on parle des chômeurs, c'est assez bien vu. Et régime de croisière, ce qu'il faut comprendre par régime de croisière, c'est quand tous les anciens droits des demandeurs d'emploi seront consommés. Ouais. Et par ailleurs, on peut légitimement se poser la question de l'opportunité de nommer deux de ces illustres signataires, rapporteurs de la commission sur les grands défis économiques qui traitent pêle-mêle du réchauffement de la planète, des inégalités et du vieillissement de la population. Donc il s'agit toujours de Jean Tirole et Olivier Blanchard. Pour finir, juste à titre informatif, et c'est une info que j'avais eu du mal à trouver, en fait la réforme n'est pas passée dans son intégralité. Je cite du coup le site travailemploi.gouv.fr. Par ailleurs, si la conjoncture continue de s'améliorer, deux catégories de dispositions soumises à une clause de retour à meilleure fortune entreront en vigueur au 1er décembre. La durée d'affiliation minimale pour ouvrir un droit à l'assurance chômage passera de 4 mois à 6 mois. Donc c'est pas encore effectif ça. Et la dégressivité de l'allocation pour les plus hauts salaires s'appliquera au terme du 6e mois et non plus du 8e mois. Ces clauses de retour à meilleure fortune prévoient un nombre total de déclarations préalables à l'embauche pour des contrats de plus d'un mois qui dépassent le seuil de 2 700 000 sur une période de 4 mois consécutifs. Et un nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A qui diminue d'au moins 130 000 au cours des 6 derniers mois. Il faut savoir que cette clause de retour à meilleure fortune qui, là encore, enfin, les termes sont vraiment bien choisis. En fait, c'est une disposition normalement par laquelle le créancier abandonne sa créance, sauf s'il advient que le débiteur soit revenu à meilleure fortune. Donc là, il y a vraiment un inversement en fait de qui doit à qui. En fait, si on comprend bien, en fait, c'est l'état le créancier, alors que en fait, c'est nos cotisations à la base, quoi. Ouais. Donc voilà. Et j'en ai à peu près terminé.
Et tout ça, c'était quand, le recours à...
Alors, le recours, il avait été déposé de mémoire juste après le 1er octobre, parce qu'ils avaient trouvé le moyen, en fait, de sortir le texte vraiment la veille. Je crois que c'était la veille à 20h ou 22h. Et en fait, c'était au niveau calendrier, je crois que c'était... ils avaient 10 jours pour le poser, et en fait le conseil d'État avait 10 jours pour examiner, et
du coup là ils ont rejeté ça
vendredi 22, donc ouais. Ce vendredi.
Alors c'est hasard des publications, il y a un truc d'un cynisme sans nom, le magazine Le Point, dans ses pages économiques, le 22 octobre publier un article qui s'appelle « Assurance chômage, l'UNEDIC prévoit un retour à l'excédent dès 2022 ». Et en gros, c'est tout un article pour nous dire « c'est super, finalement, il y a plein de sous pour l'assurance chômage ». Donc c'est, j'ignorais, mais en même temps, c'est pas surprenant. Le président de l'UNEDIC, c'est un mec du MEDEF, il explique que cet excédent d'argent pour l'UNEDIC, c'est dû à deux choses. Plus d'emplois, mais la prévision sur 2022 du nouveau calcul. Donc en gros, moins d'argent, non pas donné, hein, parce qu'on donne pas une... Enfin, moins d'argent reversé, quoi. Nos cotisations vont être stockées tu sais pas où pour que l'UNEDIC soit excédentaire.
Faire des petits, comme on appelle ça.
Voilà, le même jour. Merci.
De
quoi on parle? Après avoir cité Le Point, on va citer Ouest France de mieux en mieux.
Je vais être un peu plus léger, moi. Donc c'était hier soir, j'ai entendu ça. Alors, ne me jetez pas les pierres, hein, je regarde les infos de temps en temps. Le dimanche soir, je regarde le 20h sur France 2, ça m'arrive.
Putain la vache, ouais. Je vais faire pipi.
Et je suis tombé sur un positionnement du rédac-chef de Ouest France, François-Xavier Lefranc, sur les sondages pour la présidentielle 2022. Et en gros, eux, ils se positionnent, et le titre de l'éditorial, c'est « Présidentielle 2022, les sondages inquiétantes dérivent ». Alors, je ne vais pas tout vous lire l'éditorial, je vous encourage d'aller lire parce que c'est intéressant. Je vais juste vous lire un petit paragraphe qui était... Hop, voilà, c'était, je trouve, celui qui m'était le mieux, en fait. C'était, alors, le temps passé à commenter les sondages détourne les personnalités politiques et les médias de l'essentiel. La rencontre avec les citoyens, l'échange approfondi, le débat d'idées, l'écoute de ce que vivent les gens au quotidien, de leurs inquiétudes, de leurs espoirs. L'obsession sondagière empêche les uns et les autres d'écouter la diversité du pays et de ses habitants et de ses territoires. Elle nous berce d'illusions et nous aveugle. Elle nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Donc, à la fin de ce petit paragraphe, il renvoie à la fin de l'article où j'ai été très surpris. Ouest France se positionne sur le fait qu'il ne... Donc, en gros, voilà, ils expliquent ce recours systématique au sondage pour éviter de se pencher sérieusement sur les programmes des candidats ou pour pallier à l'absence de programme. On ne sait pas qui c'est qui vise, mais on devine bien. Nous paraissent dangereux pour la démocratie. Ouest France ne réalisera aucun sondage sur le sujet avant l'élection. Donc ils ont pris une position sur laquelle, eux, ils ne feront pas de sondage. Alors après, est-ce qu'ils vont commenter d'autres sondages? Ça, je ne lis pas assez Ouest France pour le savoir. Mais du moins, eux, ils se positionnent dans le fait qu'ils n'en feront pas. Je trouve ça... Bon, voilà, je ne suis pas un lecteur de Ouest France, mais j'ai trouvé ça assez courageux qu'un rédac-chef se positionne clairement en disant « Nous, voilà, on passe outre, on trouve que ça s'emballe trop. » Ils le disent clairement, de toute façon, que... Là, on est sur... enfin, de toute façon, on en est tous témoins et on le voit tous les jours pour ceux qui lisent les médias, qu'ils soient mainstream ou un peu plus intéressants. De toute manière, on nous pond 10 sondages par jour avec 10 conneries par jour. On ne sait plus en fait qui pense quoi, qui fait quoi. On nous balance des chiffres de présidentiel, en gros. On nous parle de l'abstention, on nous parle de tout et de rien. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. J'ai trouvé que West France, pour une fois qu'il se positionne, ça m'a surpris. Et je trouvais intéressant cet aspect qu'un rédac chef en plus s'engage, c'est assez rare.
Ah ouais, c'est une prise de position plutôt chouette. Hein.
Ouais, sachant que c'est West France, quoi. Mm. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse éditoriale de West France.
Et du coup, on va terminer sur un truc moins gay. Enfin, ça a failli être une bonne nouvelle, puis en fait, non. On va parler des inculpés du 8 décembre. Donc c'est l'affaire d'antiterrorisme de l'ultra-gauche qui est en cours aujourd'hui, depuis donc le 8 décembre. On rappelle, 9 personnes arrêtées un peu partout en France ce 8 décembre 2020, avec 7 personnes, enfin 2 personnes relâchées sans suite, 2 personnes qui sont poursuivies pour association de malfaiteurs à visée terroriste, 5 personnes qui ont été incarcérées le 8 décembre, et 2 d'entre elles ont été libérées au printemps. Et puis, le 15 octobre, donc il y a 10 jours, il restait donc 3 personnes en prison, dont un toujours à l'isolement depuis le 8 décembre. Une des 3 personnes qui restaient enfermées a été libérée. Je vais vous lire un message du comité de soutien de Rennes, donc comité de soutien 8 décembre. Et voilà, et vous allez comprendre pourquoi c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Le vendredi 15 octobre dernier, nous apprenions avec joie et stupéfaction la remise en liberté d'un des 3 camarades encore incarcérés dans l'affaire du 8 décembre. Un grand soulagement pour toutes. Ce n'était malheureusement pas du goût du jeune parquet national antiterroriste et du pouvoir exécutif derrière, décidant dès le lendemain de faire appel de cette décision. Le copain devra donc se présenter à une nouvelle audience le mercredi 27, donc là dans 2 jours, avec ses affaires, pour éventuellement retourner en détention provisoire. La justice s'amuse toujours à mettre des vies plus bas que terre. 3 jours après, ce même parquet national antiterroriste décidait de ne pas se saisir d'une affaire d'extrême droite, saisie d'un arsenal de guerre, pour absence d'éléments pouvant caractériser un projet d'attentat. S'armer et se préparer à la guerre raciale, ok. Faire du airsoft, combattre Daesh, parler de révolution, pas ok. Jusqu'où le PNAT ira-t-il pour son premier procès ultra-gauche? Alors que l'instruction croit toujours à un fameux projet d'action violente servi en soupe dans les médias et fantasmé par la DGSI, et qu'elle remue des gros billets pour le rendre réel, toujours plus d'écoute, de convocation de témoins, de filature, il semblerait que sa haine des inculpés suffise à elle seule pour maintenir des accusations de terrorisme contre une association qui n'en est pas une et n'en sera jamais. Le juge d'instruction Jean-Marc Herbeau, croyant donc mordicus au projet que la DGSI lui avait promis, était pourtant forcé de constater à demi-mot le rôle secondaire de presque tous les inculpés. Une manière, évidemment, de réaffirmer qu'il y aurait un noyau moteur, qui ça, hein, et de justifier le maintien sous pression des derniers derrière les barreaux. Il n'est pas étonnant qu'après avoir consacré des décennies de sa vie à réprimer scrupuleusement les cibles de la police politique française, il soit difficile pour Jean-Marc Herbeau de se défaire de ses prénotions sédimentées. D'autant plus qu'après avoir ouvert illégalement une instruction sur les bases de simples notes de renseignement, allant vigoureusement à l'encontre de la Commission européenne des droits de l'homme, il devient primordial d'aller au bout de la peine pour justifier cet écart. Mais malgré tout, les contrôles judiciaires s'assouplissent, les auditions des témoins provoquent l'indignation des familles, une nouvelle perquise fin septembre faisait plouf, des inculpés voulaient même défaire l'interdiction de communiquer entre eux. Le juge était-il lassé d'interroger des personnes sur leurs visites touristiques et leurs discussions alcoolisées ? Sentait-il que la DGSI l'avait manipulé en gonflant son scénario? Et jusqu'où ira-t-il pour sa dernière enquête? comme il est facile d'acculer de questions tordues des personnes affaiblies par la prison. Combien de temps tiendraient-ils à leur place, eux ? Jusqu'où pourriez-vous creuser dans vos mémoires afin d'en dévoiler votre intimité sous la menace d'années d'enfermement ? Il est vrai que l'espoir d'une libération nous avait quittés. La surprise n'en fut que plus belle, mais amère. L'espace des quelques jours, la vie avait repris un peu de couleur. Nous souhaitons aux camarades de profiter de ces belles nuits de pleine lune et de tempête. On saura mercredi s'ils retournent en prison ou pas. C'est assez abject. Enfin, c'est au-delà de ça. On leur a laissé... S'ils y retournent, on leur a laissé 2 jours en lui disant « Tiens, regarde ce que c'est la liberté. » Et maintenant, parle. Bref, il y a toujours pas d'avancée. Il y a toujours 2 personnes en prison. Il y a toujours rien de plus dans le dossier. Et comme le disent les copains, dans le même temps, il y a plein de groupes et groupuscules d'extrême droite qui, pour le coup, sont arrêtés avec des vrais flingues, avec parfois des arsenals de guerre. Et là, il n'y a pas matière à monter une affaire qui concernerait le parquet national antiterroriste. Ouais. On reparlera de ça aussi dans une prochaine midinale. C'est un parquet qui est né là pendant l'été. C'est jamais trop une bonne nouvelle pour les gens qui sont concernés quand il y a des fusions de services, quand il y a des créations de justice ou des parquets comme ça. On rappelle que c'est une comparaison, hein, mais on rappelle que pour l'affaire de Tarnac, une partie des emmerdements des inculpés de Tarnac était née suite à la fusion de 2 services où ils voulaient absolument se tirer la bourre et absolument faire le jeu de celui qui pissait le plus loin. Ça a coûté 10 ans de procédure, tout ça pour rien, ils ont été condamnés pour refus de prélèvement ADN. 10 ans de procédure antiterroriste. Donc là, et sur l'affaire des inculpés du 8 décembre, on a largement dépassé le temps de détention provisoire qu'avaient vécu les inculpés de l'affaire dite de Tarnac. Donc, dans le droit, on ne met pas les gens en prison s'ils n'ont pas commis des faits.
Ouais, si le PNF pourrait être aussi vindicatif, on serait bien.
Voilà, on est bien pour cette midinale. On se dit à la semaine prochaine ou quoi ?
Ouais.
Donc, carrément. Bon, ouais. Alors générique, à la semaine prochaine, ouais. Et à très bientôt.
Et une bonne fin de semaine.
La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.